Manuel Valls annonce qu'il repousse son départ de 24 heures. Le ministre des Outre-mer veut laisser toutes leurs chances aux discussions et négociations qui ont débuté ce matin. Les participants à ces discussions vont travailler sur les trois thèmes définis par le ministre des Outre-mer après ces échanges du début de semaine. L'UGPE continue de parler d'un traitement partiel de la province sud sur l'inscription et l'attribution des bourses scolaires. C'est une campagne de communication critique et mensongère de la part de l'UGPE, répond la province. Les relations franco-algériennes restent tendues. La France a toutefois accordé des visas temporaires aux imams qui viennent pour le ramadan, ce qui suscite de nombreuses réactions politiques. L'état de santé du pape, toujours critique mais stabilisé, c'est le dernier bilan de santé publié par le Vatican au 12e jour d'hospitalisation du Saint-Père. Et puis le sport avec le football et les premiers quarts de finale de la Coupe de France. Ce matin, Cannes et Reims se sont qualifiés aux dépens de Guingamp et d'Angers. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Manuel Valls a lancé les discussions. Le ministre des Outre-mer est accompagné par le conseiller spécial du Premier ministre, Éric Thiers, pour mener des négociations avec l'ensemble des délégations du Congrès. Autour de la table, les représentants des loyalistes et du Rassemblement, de Calédonie Ensemble, de l'Éveil Océanien, de l'UNI et de l'UCFL-NKS. Une première réunion qui a débuté à 8h30 au commissariat où vous trouvez Nicolas Legrand.
Oui, des discussions qui se poursuivent actuellement au commissariat. Vous l'avez dit, Jean-François, cela faisait bien longtemps que toutes les délégations ne s'étaient pas réunies autour de la même table. Aujourd'hui, les représentants des loyalistes, du Rassemblement, de Calédonie Ensemble, de l'Éveil Océanien, de l'UNI et de l'UCFL-NKS sont donc en train de discuter, de dialoguer, et le ministre l'espère de négocier. Manuel Valls qui a proposé trois thèmes de discussion après la plénière de restitution et de méthode et les réunions bilatérales de lundi. Le premier, vous le savez, c'est le lien avec la France, un thème qui englobe les questions d'autodétermination, de décolonisation, de citoyenneté, de corps électoral et de compétences régaliennes. Le deuxième thème, c'est la gouvernance, c'est-à-dire les institutions, gouvernements, congrès, provinces, communes et leurs compétences, ainsi que les réformes à envisager. Et le troisième thème, c'est le nouveau contrat social, c'est-à-dire ce qui fait société, avec un accent particulier mis sur la jeunesse. À l'ouverture des travaux ce matin, le député Nicolas Metzdorf a déclaré être dans un état d'esprit constructif.
Un état d'esprit constructif, déterminé à défendre les valeurs des trois référendums, la volonté aussi de trouver un compromis politique pour assurer un avenir à la Nouvelle-Calédonie. Donc on y vient de manière constructive et puis force de proposition comme on l'a toujours été. Tout le monde vient, donc c'est une bonne nouvelle. Je crois que la situation économique et sociale fait que tout le monde se retrouve autour de la table. Comme c'est le premier tour de table, on va sentir et écouter les positions des uns et des autres. Les nôtres, vous les connaissez, c'est le respect des trois référendums, c'est l'égalité entre toutes les ethnies du territoire et c'est la sécurité aussi pour tous. À partir du moment où ces trois sujets sont respectés, pour nous, après, on peut travailler.
Et pour Calédonie Ensemble, Philippe Dunoyer n'a pas caché son impatience de discuter autour des trois thèmes retenus.
Très impatient d'avoir cette première réunion tripartite attendue depuis 5 ans maintenant, sur un sujet qui est essentiel. Impatient et patient en même temps, parce que ça prendra du temps, parce que les sujets sont lourds, mais on va commencer aujourd'hui, on va poursuivre demain, peut-être qu'il y aura d'autres réunions, certainement en tout cas. L'objectif aujourd'hui, c'est d'avancer. On ne va pas conclure, mais d'avancer, donner un signal positif aux Calédoniens, à la relance de l'économie, parce que les deux sujets sont liés. Donc oui, je suis impatient qu'on puisse rentrer dans le cœur des discussions.
Mila Koulotoukoumouli, pour l'Éveil Océanien, estime que les délégations doivent maintenant se montrer à la hauteur de l'attente des Calédoniens.
Beaucoup d'engagement, d'impatience. Le pays attend de nous beaucoup. Tout le monde vient avec un état d'esprit pour avancer. Puis on verra si on arrive à aller jusqu'au bout. Mais état d'esprit assez positif.
Les délégations indépendantistes n'ont pas souhaité s'exprimer en ouverture des discussions qui se poursuivent, je le disais, au Haut-Commissariat. Devant la grille du Haut-Commissariat, Nicolas Legrand, RRB.
Et la présence de la délégation UCFL-NKS était incertaine jusqu'à hier soir, mais elle a donc finalement été confirmée. Le FLNKS a annoncé sur sa page Facebook que son bureau politique élargi avait acté l'avancée des différents échanges depuis l'arrivée du ministre des Outre-mer. Il précise avoir réaffirmé à Manuel Valls par courrier, et je cite, que des points restent à éclaircir, notamment la situation des prisonniers politiques, la supervision de l'ONU et les discriminations récurrentes vis-à-vis de nos populations. Fin de citation.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS avec d'abord la réponse à la question d'hier. 17% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS estiment que la méthode présentée par Manuel Valls leur semble efficace pour aboutir à un accord. Mais ils sont 83% à dire qu'elle ne leur semble pas efficace pour aboutir à un accord. Voici notre question du jour. L'Europe a-t-elle raison de continuer à soutenir le président ukrainien Zelensky? Si vous pensez qu'elle a raison, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Le traitement judiciaire des émeutes a changé le travail de la justice au quotidien. C'est le procureur général près la cour d'appel, Bruno Dalle, qui était notre invité ce matin. Il quitte le territoire en fin de semaine au terme de sa mission de 2 ans et demi. Au début de son séjour, il s'est attaqué aux fléaux récurrents que sont la consommation d'alcool, la délinquance routière ou encore les violences intrafamiliales. Mais les émeutes de 2024 ont bouleversé le quotidien de la justice, nous a dit Bruno Dalle.
Oui, ça a changé les choses. D'abord parce que faut bien voir que c'est un traumatisme pour toute la Calédonie, mais c'est un traumatisme aussi pour l'institution judiciaire. On a des personnels qui ont été concernés au premier niveau parce que craignant de perdre leur logement, parce que leurs gosses ne pouvaient plus aller à l'école. Donc il a fallu vivre avec la crise et gérer la crise. Et ensuite, il y a eu des attentes contradictoires sur la justice. Justice coloniale, justice laxiste. Et donc nous, il a fallu faire notre office avec, heureusement, des renforts de forces de police judiciaire. Heureusement, une équipe du parquet avec Yves Dupas à sa tête qui a tenu bon. Heureusement, avec des juges particulièrement disponibles et qui ont accepté de laisser certains de leurs contentieux pour se mobiliser dans le cadre du plan que nous avions défini avec le Premier Président sur l'activité pénale. Et puis on a aussi anticipé les problèmes de droit du travail, les problèmes de droit commercial qui sont aujourd'hui aussi au cœur de nos préoccupations. Donc oui, ça a bouleversé la justice, ça a donné une autre image de la justice. Et la justice a été résiliente, elle a tenu sa place, elle a répondu assez fermement. Et puis maintenant, il faut être capable de l'analyser calmement.
Et Bruno Dalle a insisté sur le fait que l'intense activité judiciaire générée par les émeutes se poursuivait.
Il y a beaucoup de dossiers qui ont été engrangés. Vous avez encore vu récemment sur des affaires un peu significative, attaque d'une brigade de gendarmerie, attaque d'une mairie à l'occasion des élections, que des mois après, le travail d'identification, le travail d'interpellation. Et je veux rendre hommage aux services de gendarmerie, de police judiciaire qui ont travaillé ensemble ici. On parlait d'exception tout à l'heure, mais on a une exception, c'est que police et gendarmerie ont travaillé sur des co-saisines, sur le pilotage du parquet et aussi des juges d'instruction.
Le tribunal de Nouméa n'a plus la main sur l'instruction de l'enquête sur les commanditaires présumés des émeutes qui sont détenus en métropole. L'enquête est désormais délocalisée à Paris. Ce n'est pas pour autant que le tribunal de Nouméa se désintéresse du dossier, nous a dit Bruno Dalle.
À partir du moment où la chambre criminelle a désigné le tribunal judiciaire de Paris et 3 juges d'instruction de Paris, on n'est plus au pilotage, aux manettes. Maintenant, l'enjeu pour nous, c'est d'assurer une articulation entre le parquet de Paris et nous, c'est-à-dire la justice calédonienne, pour que si la justice de Paris a besoin d'éléments qui sont issus justement de procédures comme celles que j'ai citées tout à l'heure, ça puisse alimenter le dossier des commanditaires. Mais on n'a plus rien à dire et on n'a plus rien à faire directement dans ce dossier.
Ce qui veut dire que sur le timing et le déroulement des faits maintenant, vous n'avez plus la main du tout.
On n'a aucune main, mais on sait comment fonctionne la justice, donc on a quand même une idée de ce que nécessite un tel travail. Le point positif, c'est qu'il y a 3 juges d'instruction. Le point positif, c'est qu'ils se sont tout de suite impliqués dans le dossier. Le point positif, c'est qu'il y a eu des échanges avec les juges d'instruction d'ici. Le point positif, c'est qu'on a échangé entre parquets. Et donc, Paris a toutes les cartes en main pour bien traiter ce dossier.
Le procureur général Bruno Dalle, qui était donc notre invité ce matin, quitte le territoire en fin de semaine. Il va prendre la direction de l'autorité monégasque de sécurité financière. Avant son départ de Nouméa, il a lancé un travail sur l'ouverture d'une antenne nationale antifraude pour le Pacifique qui serait basée à Nouméa. Elle pourrait voir le jour, nous a-t-il dit, dans le courant de l'année 2025. La province sud dénonce une campagne de communication critique et mensongère de la part de l'UGPE. Depuis plusieurs semaines, le collectif Urgence Sociale accuse l'institution d'un traitement partial concernant l'inscription et l'attribution des bourses scolaires, Léana Colombo.
La province sud avait déjà répondu une première fois au collectif par voie de communiqué la semaine dernière. La province déclare avoir réexaminé les 79 cas soumis par l'UGPE. 72 de ces situations faisaient partie de la première liste et ont donc déjà été traitées par les services de la province. Concernant les nouveaux cas, 3 se rapportent à l'inscription scolaire, 1 avait déjà fait l'objet d'une admission dans une école. Un autre attendait son admission dans l'enseignement supérieur, donc en dehors du champ de compétences de la province sud. Le dernier est en attente de transmission de justificatifs complémentaires par les parents. S'agissant des demandes de bourse, 4 correspondent à des nouvelles demandes. Une n'avait pas fourni ses justificatifs de revenus. Une autre dépassait les plafonds de ressources. Une n'avait jamais déposé de dossier. Et la dernière ne parvenait pas à justifier de 10 ans de résidence en province sud. L'examen de ces dossiers répond à des critères bien définis, explique Christophe Bergerie, secrétaire général adjoint de la province sud.
Parmi les noms, il y a effectivement des questions liées aux bourses. ces situations-là, elles sont connues en grande partie de la province sud. On est déjà, nous, en contact avec les familles pour résoudre les difficultés et on encourage vraiment l'ensemble des familles à dialoguer avec nous s'il y a besoin d'explications ou besoin, en fait, de préciser un certain nombre de choses dans les dossiers. Après, on est dans l'application de la réglementation provinciale, notamment pour les bourses. Quand les revenus dépassent les seuils qui sont fixés par la réglementation, eh bien, on est obligé de dire non. Puis malheureusement, c'est ainsi que l'on doit faire.
La province sud rappelle que le traitement des dossiers demande du temps et que ces cas, déjà traités une première fois par les services, ralentissent le travail des agents provinciaux.
C'est une grande première au Salon de l'agriculture qui se tient en ce moment à Paris. Les trois chambres d'agriculture de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna ont donc annoncé la création d'une fédération des trois chambres consulaires du Pacifique, Lionel Sabot.
Le projet remonte au lendemain du Salon 2024 et a été finalisé à Nouméa en avril dernier. L'objectif est de mieux satisfaire les besoins en alimentation des trois territoires qui ont des taux de couverture alimentaire faibles et des niveaux d'importation massifs. Écoutez Jean-Christophe Niotou, c'est le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie.
Trois objectifs principaux. Le premier, c'est de travailler communément pour modifier et améliorer nos productions agricoles afin de mieux nourrir nos populations. Le deuxième élément, c'est de créer des projets communs, notamment au niveau de l'État et de l'Europe. Et vous savez qu'à trois, dans cette fédération, on sera certainement plus fort pour aller demander des financements au niveau de l'État et de l'Europe. Et enfin, c'est aussi la possibilité de créer des synergies à l'échelle pacifique parce que ce Pacifique, il est loin de l'Hexagone. Et donc l'idée, c'est de se rassembler pour pouvoir, pourquoi pas demain, créer un marché commun à l'échelle des îles du Pacifique. C'est 550 000 consommateurs qui aujourd'hui travaillent très peu ensemble finalement. Et donc, pourquoi pas demain avoir du bœuf local dans les assiettes des Polynésiens et pourquoi pas avoir demain des productions qui arrivent de Polynésie ou de Wallis en Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'est un enjeu pour nous d'aller dans ce sens-là.
Il y a un exemple de cette future coopération entre territoires du Pacifique. La consommation de viande bovine en Polynésie française, dont la quasi-totalité vient aujourd'hui de l'étranger. On peut imaginer que dans l'avenir, cette viande-là viendra de Nouvelle-Calédonie. Thomas Moutam est le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche lagonnaire de Polynésie française.
L'élevage, la Nouvelle-Calédonie sont très 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 avancés et là ils ont sollicité plus de 1300 tonnes de viande de bovine. Ils ont dit, est-ce qu'on ne peut pas expédier en Polynésie? J'en ai parlé au ministre de l'Agriculture, il est tout à fait favorable parce que nous produisons la viande bovine 3-4%. C'est vraiment minime. Et 95% viennent de la Nouvelle-Zélande, d'Australie, qui viennent d'Amérique, qui viennent de l'extérieur. On est juste à côté. Avec cet échange, nous allons importer ces viandes locales qui viennent de la Nouvelle-Calédonie, en plus de la bonne qualité, et peut-être de Wallis-Futuna. Ils viennent chez nous en Polynésie pour faire des échanges sur d'autres produits de transformation, comme l'arbre à pain ou bien les ignames transformés en flocons.
Un des propos recueillis par notre correspondant à Paris, Xavier Robert. Le Salon de l'agriculture se poursuit jusqu'à dimanche. Rappelons que les trois territoires français du Pacifique sont à présent ensemble, porte de Versailles, dans le hall dédié aux Outre-mer.
Il est 11h45 dans quelques secondes. Une première pause dans ce journal et dans un instant, on voit tout ce qui fait l'actualité en métropole et dans le monde.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Savez-vous qu'un lave-vaisselle utilise de l'énergie surtout pour le chauffage de l'eau et peu pour le moteur de la pompe de vidange? Les programmes à faible température comme ECO permettent de diminuer en moyenne de 5% la consommation d'électricité.
Retrouvez toutes les astuces EcoConso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46.
Les instants Magnum à 230 francs sont de retour jusqu'au 23 mars. C'est le moment ou jamais de craquer pour votre parfum préféré. Classique, amande, star chaser ou Euphoria Wonder. Votre Magnum préféré à 230 francs, c'est le moment de vous faire plaisir. Offre valable jusqu'au 23 mars 2025 sur les bâtonnets Magnum vendus à l'unité dans les points de vente participants à l'opération. Plus d'infos sur la page Facebook Magnum & Co.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
L'actualité en métropole et dans le monde. On va commencer par parler des relations franco-algériennes qui sont tendues. Alger continue de refuser de laisser rentrer ses ressortissants expulsés de France. Le ministre français des Affaires étrangères a d'ailleurs annoncé des premières sanctions avec des restrictions d'entrée en France et restrictions de circulation pour plusieurs dignitaires algériens. Mais dans le même temps, aucune restriction n'a été imposée aux imams qui seront accueillis sur le sol français pendant le ramadan qui commence à la fin de la semaine. Ils ont tous obtenu leur visa, ce qui fait couler beaucoup d'encre. Alexandre Chauveau pour Europe 1.
Et les regards se tournent vers Bruno Retailleau. Le RN l'accuse déjà d'être fort en parole et faible en acte. Qu'attend le ministre de l'Intérieur pour agir ou démissionner ? S'interroge de son côté Éric Ciotti, favorable à un bras de fer avec l'Algérie. Alors dans les faits, l'octroi des visas dépend à la fois de la place Beauvau et du Quai d'Orsay. Mais le gouvernement assume sa décision. Le ministère de l'Intérieur appelle ainsi à dissocier les mesures de rétorsion souhaitées par Bruno Retailleau envers le régime algérien et une décision qui serait vécue comme une vexation par la communauté franco-algérienne vivant en France. Priver des musulmans français de pratiquer leur foi à cause d'un conflit diplomatique, ce serait contre-productif, défend un conseiller pour qui une telle décision serait instrumentalisée par Alger pour justifier son hostilité à Paris. La place Beauvau dresse par ailleurs un parallèle avec la venue de prêtres étrangers lors des fêtes chrétiennes et rappelle que ces imams ont vocation à rentrer chez eux une fois le ramadan terminé. Le sujet pourrait néanmoins être débattu demain lors du Conseil interministériel de contrôle de l'immigration convoqué par François Bayrou.
Un conseil interministériel de contrôle de l'immigration qui s'annonce tendu avec deux positions différentes qui devraient s'exprimer, explique Maïlène Trémollet pour Europe 1.
C'est un comité durant lequel deux visions doivent s'affronter. D'un côté, celle de Bruno Retailleau qui attend l'aval du gouvernement pour entamer un bras de fer avec Alger. Et de l'autre côté, celle de Jean-Noël Barrot qui cherche au contraire à éviter un conflit diplomatique. Décidé à ne pas se focaliser sur la question algérienne dans l'espoir d'empêcher des sanctions ciblées, notamment sur les visas, le ministre des Affaires étrangères souhaite surtout se concentrer sur la méthodologie à appliquer en fonction de chaque pays. Alors si les rapports avec Alger seront malgré tout évoqués, étant donné l'actualité, Matignon choisit de mettre l'accent sur d'autres grands thèmes comme Mayotte, la mer du Nord ou encore les frontières intérieures. Arbitre des échanges, c'est le Premier ministre qui devra trancher ensuite sur les outils concrets à mettre en place pour renforcer les contrôles et appliquer une politique d'éloignement plus efficace. Rien n'est à bout, tous les leviers seront examinés, affirme-t-on dans l'entourage de François Bayrou. Parmi eux, les questions de la délivrance des visas, des passeports diplomatiques ou encore de la coopération avec le Royaume-Uni sur l'immigration clandestine.
L'actualité judiciaire avec la fin du procès de Brahim Aoussaoui. Ce Tunisien de 26 ans a tué 3 personnes dans la basilique de Nice en octobre 2020 au fil des audiences. Il a fini par reconnaître son geste et par justifier d'ailleurs ce geste terroriste. Une posture qui a fait bondir les avocats des parties civiles lors de leur plaidoirie. Jean-Baptiste Marty.
L'air grave, Maître Soucy s'avance à la barre d'un pas déterminé. Après 3 semaines de procès, je suis atterré par le système de défense de ce monsieur, lance-t-il défiant d'un regard noir le terroriste dans le box. Il reconnaît les faits mais ne s'en souvient pas, ce n'est pas du déni, c'est un bras d'honneur à la justice, aux victimes et à la République, hurle l'avocat sans que cela fasse pour autant réagir. Brahim Aoussaoui dans son box assis, le dos courbé, le regard absent, et l'avocat va encore plus loin. Monsieur Aoussaoui, c'est le djihad dans le box. Il reproche aux terroristes islamistes d'avoir volé le procès aux victimes.
On avait dans le box un combattant de l'État islamique qui s'est offert une tribune au moment où il l'a voulu, quand il l'a voulu. C'est quand même très particulier et d'une très très grande violence.
D'une voix solennelle, Maître Soucy enchaîne. Ce que je ressens à travers ce procès, c'est que la France a démontré qu'elle était plus forte que ceux qui veulent détruire sa devise, plus forte que celle qui rêvait d'un monde sans terrasse, d'un monde sans dessinateur, d'un monde sans juifs, sans chrétiens, sans mécréants, conclut le conseil avant de tourner le dos à l'accusé sans réaction dans son box.
La décision revient à Emmanuel Macron et à lui seul, mais le chef de l'État va solliciter l'avis des députés qui rendront une décision consultative. Il s'agit de savoir, en cas d'accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, si la France doit envoyer ou non des troupes au sol pour s'assurer du respect des termes de l'éventuel accord. Le président de la République y est évidemment favorable, mais semble aussi suivi par une majorité de la classe politique, y compris par les socialistes, explique leur chef de file au Sénat, Patrick Kanner.
Un accord qui permettrait cela peut justifier totalement la présence de troupes françaises, mais en aucun cas, évidemment, en aucun cas, sur une ligne de front de haute intensité, avec le risque, bien sûr, de mort ou de blessés dans les rangs français.
Patrick Kanner, le président du groupe socialiste au Sénat. Cela fait 12 jours maintenant que le pape, victime d'une pneumonie, est hospitalisé à la clinique Gemelli de Rome. Le dernier bilan de santé du Vatican stipule que le pape reste dans un état critique mais stationnaire. Chaque jour, des centaines de fidèles se retrouvent pour prier devant la clinique. Le reportage d'Antonino Gallofaro.
La pluie battante n'a pas découragé cette poignée de croyants à venir prier devant la statue de Jean-Paul II, devant l'entrée principale de l'hôpital Gemelli. Cecilia est émue aux larmes. Elle aussi, patiente de la clinique, elle se recueille sans prendre la peine de se protéger de l'eau.
J'ai laissé un mot au pape. Nous devons prier. Il l'a toujours dit, priez pour moi. Je l'ai toujours fait, j'y crois et je le sens plus proche de moi. Nous nous retrouvons dans le même moment de souffrance.
Quelques dizaines de personnes assistent à la messe célébrée à l'intérieur de la clinique, dans la chapelle. Sœur Louise, sénégalaise à Rome depuis 4 ans, a assisté à l'office. Dans le même temps, pleine d'espoir et réaliste, elle tenait particulièrement à être au plus près du pontife en ce moment.
J'ai participé avec beaucoup de foi, beaucoup de joie et beaucoup de gratitude pour tout ce qu'il est comme pasteur, comme guide et comme modèle. Nous prions pour sa guérison, ou alors que la volonté de Dieu soit faite.
Les fidèles se retrouvent aussi ce soir place Saint-Pierre pour une nouvelle prière du chapelet, toujours pour François. Rome, Antonino Gallofaro, Europe 1.
Il est 11h et bientôt 52 minutes, la dernière pause dans ce journal avant de défiler l'actualité sportive avec Lionel Sabot.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Pour la rentrée, Lagoon vous branche sur une offre survoltée. Avec Easy Start, profitez d'internet illimité et jusqu'à 5 mois offerts pour démarrer l'année en beauté. Et c'est sans engagement, vous êtes libre comme votre connexion. Mais ce n'est pas tout. Pour toute nouvelle souscription, vous pouvez tenter de remporter un ordinateur portable. Rendez-vous vite sur lagoon.nc ou en boutique pour plus d'informations. Tirage au sort le 20 mars 2025. Offre soumise à condition.
Des problèmes de termites, de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flic Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flic Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation et de la lutte anti-termites. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flic Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo. Un numéro 28 94 20.
Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Bodin.
Oui, on va commencer par une double actualité football, Lionel Sabot. Et d'abord, la Coupe de France. On jouait ce matin les deux premiers quarts de finale de la compétition.
Oui, l'exploit du jour a été signé par l'ASKAN, club de National 2, l'équivalent de la 4e division. Devant leur public, les Canois recevaient Guingamp, club de Ligue 2, et ils se sont imposés presque tranquillement. Score final 3-1. Cannes a éliminé ce matin son 3e club de Ligue 2, après Grenoble en 32e de finale et Lorient en 16e de finale. Et se qualifie donc pour les demi-finale de la compétition. On va rappeler pour les plus jeunes auditeurs que l'ASKAN est le club formateur d'un certain Zinedine Zidane. Au passage, je vous recommande de regarder le deuxième but de l'ASKAN ce matin, une frappe depuis le rond central de David Gonçalves, juste un petit régal pour ceux qui aiment le football. Dans l'autre match de la matinée, une rencontre entre clubs de Ligue 1, Reims est allé décrocher sa place dans le dernier carré sur la pelouse du SCO d'Angers, une victoire acquise à l'issue de la séance des tirs au but. À l'issue du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité, un but partout. Reims s'impose finalement 5 tirs au but à 3, suite et fin de ces quart de finale de la Coupe de France demain matin pour nous avec deux matchs au menu. Brest, club de Ligue 1, recevra Dunkerque, club de Ligue 2. Et puis Saint-Brieuc, qui évolue également en National 2, recevra le Paris Saint-Germain. Brest-Dunkerque, ce sera à suivre à 5h du matin. Saint-Brieuc-PSG à 7h10 sur de Nouméa.
Et l'autre actualité foot concerne les dames avec la suite de la Ligue des Nations pour l'équipe de France.
Ah oui, et sur la pelouse du Mans, les Françaises disputaient la deuxième journée de cette compétition après une victoire à 1-0 face à la Norvège samedi dernier. Les Bleuettes ont signé une nouvelle victoire ce matin, cette fois-ci face à l'Islande. Grâce à des buts signés Diani Katoto et Baltimore, les Françaises l'emportent 3-2 au terme d'un match très disputé. Avec cette deuxième victoire, la deuxième en deux matchs, les Françaises sont en tête de leur groupe de qualification avec 6 points. Prochain rendez-vous pour l'équipe de France Dames, ce sera au début du mois d'avril pour la troisième journée de la Ligue des Nations. Les Françaises seront en déplacement en Suisse.
Allez, on va faire maintenant un petit tour de la planète tennis, et avec une première étape, c'est chez les messieurs à Dubaï.
Oui, et les choses choses qui sont bien passées pour Quentin Alice et Hugo Humbert. Quentin Alice, qui est issu des qualifications, s'est imposé en 3-7 sur le russe Andrei Rublev, tête de série numéro 3 de ce tournoi. Score final 3-6, 6-4 et 7-6. Qualification également donc de Hugo Humbert, qui l'a emporté en 2-7, 6-3, 6-0 sur le tchèque Jiří Leka. En revanche, élimination d'Arthur Fils, battu en 2-7, 6-2, 6-1 par le portugais Nunes Borges. Défaite également de Gaël Monfils, qui s'est incliné 7-5, 6-4 devant l'italien Matteo Berrettini. Direction Santiago, c'est au Chili, pour vous signaler la défaite de Hugo Gaston, qui s'est incliné en 2-7 devant l'argentin Thomas Martin Echeverri. Score final 6-2, 6-3. Et puis chez les dames, direction Austin aux États-Unis, où la française Varvara Gracheva s'est imposée en 2-7, 6-2, 6-3 sur l'américaine Peyton Stearns.
Et on va terminer avec un petit mot de handball. Et après 11 ans et 172 sélections avec l'équipe de France, Luka Karabatic a annoncé ce matin qu'il prenait sa retraite internationale.
Âgé de 36 ans, le pivot du PSG aura marqué l'histoire des Bleus en remportant une fois les Jeux Olympiques, deux fois les championnats du monde et deux fois l'Euro de hand. Ça fait un sacré palmarès. Rappelons que son frère Nicolas Karabatic avait annoncé sa retraite internationale il y a quelques mois. C'était juste après les Jeux Olympiques de Paris.
Merci Lionel. Il est 11h57. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle le titre principal, l'ouverture des discussions ce matin au Sarria autour du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, en présence de toutes les délégations politiques. Manuel Valls qui a annoncé qu'il partirait samedi soir seulement du territoire au lieu de vendredi soir pour laisser toute la chance, leur chance aux discussions d'aboutir. Ce sont évidemment des informations sur lesquelles nous reviendrons tout au long de la journée, notamment dans d'autres sessions d'information de l'après-midi et le journal de 17h45.